Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs de Radio Serré, soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire. Santé pour tous marque un arrêt aujourd'hui sur la malnutrition infantile. Pour en parler, nous recevrons le docteur Yolande Fudjo, médecin nutritionniste en service à l'hôpital régional de Maroua. Grâce à son expertise, nous décrypterons les causes, conséquences et solutions de la malnutrition infantile, particulièrement ici dans la région de l'extrême nord, où plusieurs cas de malnutrition continuent d'être enregistrés. La mise en onde de cette émission est assurée par Maxino à la technique, David Bayan à la coordination et moi, Steve Febi, au micro de présentation. Petite respiration et on se retrouve juste derrière pour démarrer cette édition de Santé pour tous. Les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant sont les plus déterminants, car une mauvaise alimentation peut avoir des conséquences irréversibles sur sa croissance et sa santé, de la maladie à la mortalité infantile, en passant par le handicap. Bien que les causes soient multiples, 165 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance aujourd'hui dans le monde. Dans la plupart des cas, la malnutrition en est à l'origine. Prévenir la malnutrition est donc une priorité, y compris envers les femmes enceintes, car il ne pourrait avoir plus grande injustice pour un enfant que de naître avec un handicap physique ou mental. Dans l'esprit de la population, le Cameroun n'apparaît pas toujours en première ligne quand on parle de malnutrition, car il est reconnu comme un pays d'autosuffisance alimentaire. Toutefois, selon l'Institut national de la statistique, 44% des enfants souffrant de malnutrition dans la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale vivent au Cameroun. Le taux de malnutrition des enfants de 0 à 5 ans atteint des proportions inquiétantes dans certaines régions du Cameroun, parmi lesquelles l'extrême nord. Dans cette région permanemment frappée par des crises multiformes, la pauvreté est souvent l'argument avancé pour justifier la malnutrition des enfants. Or, de l'avis de plusieurs experts, la pauvreté ne peut pas tout justifier. Nous disposons autour de nous des ressources suffisantes pour bien nourrir nos enfants. Ce qui fait parfois défaut, c'est le manque de formation et d'information sur la gestion de l'alimentation de ces enfants. Avec le précieux concours de notre invité, nous allons, mesdames, messieurs, vous permettre d'en savoir davantage sur la gestion et la composition de l'alimentation de vos enfants à partir de ce que vous disposez déjà chez vous comme aliments. Mais avant de l'accueillir, je vous invite à écouter certains habitants de Maroua qui partagent avec nous leurs connaissances sur la malnutrition.
Moi, c'est Kwame Ladifa Touzara. Selon moi, la malnutrition, c'est les carences en vitamines et les minéraux et qui peut nous causer aussi des surpoids et l'obésité. Donc, c'est ça. Bon, moi, je peux dire les maladies causées par la malnutrition chez l'enfant. On peut trouver l'obésité. Si un enfant est mal nourri, ça se voit sur son corps. Tantôt, l'enfant perd le poids. Et aussi, on peut trouver des enfants qui sont en surpoids. Et c'est aussi dû à la malnutrition. Pour ne pas avoir un enfant mal nourri, et selon moi, dès la naissance, la maman doit bien allaiter son enfant, le bébé. On peut dire les 9 mois, la maman peut allaiter son enfant. Tout d'abord, c'est l'allaitement. Donc, si l'enfant a reçu une bonne alimentation par le sein, ça peut éviter la malnutrition. Il y a certains trucs qu'on peut donner à l'enfant, l'eau. Bon, chez nous quand même, si on allait un enfant, si c'est que ça finit, on peut proposer. Il y a certains arbres qu'on fait et on continue à donner à l'enfant et c'est bon. Après un an, la maman va commencer à faire la bouillie et donner à l'enfant jusqu'à 2 ans et après, il va commencer à chercher à manger normalement.
Je suis maman de 2 enfants. La malnutrition, c'est quand une mère néglige de bien nourrir son enfant. et d'amener l'enfant régulièrement dans les vaccinations et autres. L'enfant manque de sang et les cheveux, parfois l'enfant n'a pas de cheveux sur la tête, ça tombe et c'est par là qu'on doit voir que l'enfant est mal nourri. Bon, je ne sais vraiment pas les maladies, mais je sais que la malnutrition n'est pas bien pour un bébé. La maman doit toujours surveiller la nutrition de son enfant à tout moment. Bon, il y a des vitamines, bon, suivre bien les rendez-vous de l'hôpital. Le lait maternel, ça va dépendre de la mère de l'enfant, sauf si elle ne travaille pas ou bien elle reste à la maison. Bon, ça peut dépendre 6-7 mois. Si elle restait à la maison, elle peut allaiter son enfant. Mais si elle ne reste pas à la maison, ça va dépendre d'elle. Même 3 mois, l'enfant peut prendre le lait artificiel. La nourriture, ça va dépendre, même 8 mois, même 9 mois. À l'âge-là, l'enfant mange. Il y a la nourriture que l'enfant peut déjà manger. Oui, chez nous, il y a les nourritures qu'on donne. Bon, ça va dépendre. Il y a les sauces d'arachide. Bon, chez nous, il y a plus le ndengue qu'on fait nourrir les enfants avec. Et que moi-même, ma mère m'a nourri avec. Bon, il y a du genre, il y a le lait artificiel. Il y a la bouillie. Ça dépend de chacun. Vu que je ne donne jamais la bouillie à mon enfant, donc je ne peux pas dire grand-chose. On doit sauver l'enfant aux 3, 11 au mois, ça va dépendre. Bon, peut-être c'est ceux qui n'ont rien à faire, parce que moi, je ne peux pas allaiter l'enfant jusqu'à un an, 12 mois, ou bien, je ne sais pas trop, jusqu'à 2 ans, je ne peux pas.
Bon, moi, je réponds au nom de Soureya Ibrahim. Je peux définir la malnutrition comme le manque ou l'insuffisance des vitamines chez l'enfant, bien sûr. Bon, les signes de la malnutrition, la perte du poids, l'obésité, le kwashiorkor. Généralement, l'enfant doit prendre les aliments riches en vitamines. Bon, tout d'abord, la mère doit allaiter l'enfant de 0 jusqu'à 2 ans, normalement. Bon, généralement, les mamans servent vite les enfants et ça peut causer la malnutrition. Les mères doivent allaiter leurs enfants jusqu'à 2 ans minimum. À partir de 1 an, l'enfant peut prendre les céréales, les laits en vitamines. Bon, c'est ça. À partir de 2 ans, l'enfant peut maintenant manger normalement comme les autres.
Moi, je m'appelle Pratan Christine. J'ai 3 enfants. La malnutrition, c'est quand la mère ne nourrit pas l'enfant bien. Est-ce qu'il y a les aliments complets? Quand il y a manque des aliments complets, c'est ce qu'on appelle la malnutrition. Il y a beaucoup de signes. Il y a le CV cachant, il y a le ventre ballonné, il y a souvent le manque d'appétit, il y a le kwashiorkor, marasme. Et les décès, là, ça peut être aussi la malnutrition. Pendant la naissance de l'enfant, je donne seulement le lait maternel pendant 6 mois. Après les 6 mois, à partir de 7 mois, tu peux nourrir l'enfant avec des aliments comme le bouilli, la nourriture, quand même ce qui est un peu liant, mou. Pour faire la bouillie, j'ai besoin de 1000 couches, de soja, les poissons fumés, tu écrases et avec l'arachide, tu fais la bouillie avec. Ça donne la force à l'enfant. 5 ans, là, c'est que l'enfant, si elle a faim, elle a envie de demander la nourriture. Maman, j'ai faim, mais à partir de 6 mois, 1 an, 2 ans, l'enfant ne peut pas demander. Oui, quand l'enfant a faim, tu peux regarder. Ou bien les signes, quand l'enfant pleure, il y a aussi ça.
Moi, c'est Awini Mirabel Lavigne. Bon, la malnutrition, on peut dire que c'est une maladie due à l'absence de vitamines dans l'organisme. Les signes qui se présentent quand un enfant a ce genre de maladie, il y a la perte du poids, des troubles visuels. Bon, les causes de la malnutrition ici, bon, par exemple ici à l'extrême nord, on peut se dire que beaucoup de gens ou beaucoup de populations se focalisent sur la quantité des aliments et non la qualité pour donner aux enfants. Donc, il faut qu'on se... Normalement, les gens doivent se focaliser sur les qualités des produits pour donner à ces enfants et que ces enfants puissent être bien nourris. Oui, c'est ça en fait. Ça peut causer le kwashiorkor, ça peut aussi causer les beriberi. Bon, quand l'enfant vient de naître, d'abord, il y a l'allaitement maternel qui est là jusqu'à l'âge de 2 ans et à l'âge de 3 ans. C'est à ce moment qu'on peut commencer déjà à mélanger les aliments, en fait, pour faire sortir la bouillie, oui. Ça dépend des autres mères. Je n'ai pas dit seulement pratiquement ça, mais ça dépend parce que de 0 à 2 ans, si l'enfant prend uniquement du lait, je peux dire que cet enfant aura de la force, oui. Et cet enfant serait bien nourri. À partir de 3 ans, là, tu peux commencer maintenant à lui donner de la bouillie un peu, accompagnée du lait.
Fidèle auditeur, vous êtes bien à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire sur Radio Serré, qui a pour thème aujourd'hui la malnutrition chez l'enfant. Ce vox pop que nous venons d'écouter nous démontre qu'il y a un besoin réel en information et en formation des parents au sujet de la nutrition des enfants. Fort heureusement, nous pouvons compter sur notre invité qui est déjà avec nous dans ce studio. Docteur Yolande Fudio, vous êtes nutritionniste en service à l'hôpital régional de Marois. Bienvenue sur Radio Série.
Merci, monsieur Fubi.
Alors, docteur, aujourd'hui, nous parlons de la malnutrition chez l'enfant. Déjà, dites-nous, c'est quoi la malnutrition?
Bon, la malnutrition, de façon générale, c'est un état qui est caractérisé par une insuffisance des apports alimentaires. Et chez des personnes, on va retrouver, chez certaines personnes, une malnutrition par excès. Chez ces personnes, on va voir qu'ils sont en surpoids, les personnes obèses. Il y aura aussi une malnutrition par carence, là, due à une insuffisance des apports. Les insuffisances des apports, on aura les enfants qui ont du kwashiorkor, il y a des enfants qui ont le marasme. Et on a une autre forme de malnutrition qui est une carence en micronutriments, plus connue sous le terme de la faim cachée. On aura des carences en vitamine A, des carences en fer qui conduisent facilement à l'anémie.
Alors docteur, concrètement, comment reconnaître un enfant souffrant de malnutrition?
Généralement, la malnutrition chez les enfants est identifiée chez les enfants entre 0 et 59 mois. L'alimentation de l'enfant voudrait que entre 0 et 6 mois, l'enfant soit exclusivement allaité, donc nourri au lait maternel. Et après 6 mois, il y a la diversification alimentaire où il faut introduire des nouveaux aliments dans le repas de l'enfant. Et ces enfants, généralement, avec un échec de diversification alimentaire, on se retrouve avec des enfants qui souffrent de malnutrition, comme je l'ai dit tantôt, du kwashiorkor ou bien du marasme. On verra des enfants qui ont un retard de croissance. Il y en a qui ont une insuffisance pondérale. Et il y en a aussi qui a un retard staturo-pondéral. En fait, il y aura des enfants qui sont plus petits que les amis du même âge. On va parler de malnutrition chronique. Ça veut dire qu'on a entretenu la malnutrition pendant un long moment. L'enfant n'a pas eu tout ce dont il a besoin pour grandir. Et il y a d'autres enfants qui vont devenir apathiques. Imaginez, vous regardez un enfant, il a un regard fuyant. Il est triste, il ne joue pas avec ses amis, il pleure. C'est une forme de malnutrition. Il faut vous demander, est-ce que cet enfant, son alimentation est normale? Un enfant qui est gros de façon anormale, il est toujours, on va voir un enfant, il est toujours assis, il est bouffi et il est triste. C'est une forme de malnutrition, plus généralement connue sur le thème de kwashiorkor. Donc il faudrait que les parents puissent identifier un enfant trop maigre ou bien un enfant anormalement gros et triste, apathique. Il faudrait qu'on puisse lier cela à un état de malnutrition. Chez certaines personnes maintenant, quand on a parlé de malnutrition par carence, si on parle d'une carence en fer, ces enfants seront anémiques. Si on parle d'une carence en vitamine A, la vitamine A a pour rôle principal de soutenir la vision, par exemple, ou bien de renforcer le système immunitaire. Donc, un enfant qui a une carence en vitamine A est menacé par les maladies, par exemple. Donc, ce sont des carences qui sont les plus rencontrées dans la communauté camerounaise.
Justement, docteur, à partir de votre expérience ici dans la région de l'extrême nord, est-ce qu'on peut réellement dire que la malnutrition est un sérieux ou bien un réel problème de santé publique?
Oui, dans la région de l'extrême nord, la malnutrition est un sérieux problème de santé publique. Les enfants de 0 à 5 ans sont les plus touchés par cet état. On a remarqué par exemple les dernières statistiques de l'EDS 2020, je crois, ou bien 2018. montre que la région de l'extrême nord est touchée. Chez les enfants de 0 à 5 ans, il y a 72% qui souffrent de carence en fer. 72%, ça veut dire si on a 10 enfants, 7 au moins ont une carence en fer. Donc 7 au moins sont anémiques. Ça, c'est. Je crois que l'extrême nord est classé. C'est nous qui avons le plus lourd tribut. On en souffre vraiment, nos enfants en souffrent vraiment. Et les carences en vitamine A aussi, il y en a, on en souffre. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Santé, avec son programme de SASMIN et le programme de la vaccination, font des supplémentations en vitamine A dans les ménages chez les enfants de 0 à 5 ans. C'est une façon pour nous de résoudre ce problème de carence en vitamine A.
Quelles sont les causes de la malnutrition chez l'enfant?
Les causes de la malnutrition chez l'enfant, généralement, on peut mettre ça sur un problème, c'est une insuffisance des apports chez l'enfant. C'est une insuffisance des apports qui est due à un problème de connaissance. Il y a un problème de connaissance et un problème d'utilisation. De connaissance parce que l'enfant, en réalité, qui nourrit l'enfant, c'est le parent. Maintenant, si le parent ne connaît pas ce dont l'enfant a besoin pour grandir, le parent ne doit pas lui donner. Si le parent ne connaît pas utiliser ce qui est disponible, l'enfant va en pâtir. Donc, de façon générale, c'est un problème de connaissance, un problème d'insuffisance des apports chez l'enfant.
Est-ce qu'on ne pourrait pas également voir en la pauvreté, je vais dire ça comme ça, ou alors plutôt au niveau de vie bas de la population, une cause également de la malnutrition chez les enfants?
C'est vrai que de prime abord, on penserait que la pauvreté justifie la malnutrition chez les enfants. Mais je suis pas trop pour cet avis-là. Je pense pas que dans la région de l'extrême nord, c'est un problème de pauvreté qui est à l'origine de la malnutrition chez les enfants. Je suis plus pour un problème d'utilisation. Parce que je crois que l'extrême nord, ou bien le grand nord, est la mamelle nourricière du Cameroun. Il y a tellement de nourriture dans l'extrême nord, tellement de légumes, tellement de céréales, tellement de légumineuses. De façon générale, l'alimentation de l'enfant a besoin de 4 grands groupes d'aliments. Un groupe de glucides, nous avons dans les céréales, un groupe de protéines que nous avons dans les légumineuses. Ici, il y a le niébé, il y a le soja, il y a l'arachide, d'accord. Les lipides, nous en avons. C'est ici qu'on produit l'huile de coton, l'huile d'arachide, le beurre de vache, il y en a. En termes de micronutriments, nous en avons dans les légumes. Sur le marché à l'extrême nord, il y a tellement de variétés de légumes. Que ce soit sur le marché, que ce soit dans les champs, il y a des légumes qui ne s'achètent pas. Donc je pense plus à un problème de connaissance et d'utilisation de ce qui est disponible.
Alors ce que vous dites, docteur, m'amène à vous poser une autre question. Habituellement, dans la communauté, il y a une confusion entre le terme malnutrition et sous-alimentation. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a une différence entre ces deux appellations?
Comme je disais tantôt, la malnutrition, il y a un problème d'apport. Sous-alimentation, c'est qu'on n'apporte pas ce qui est suffisant pour les besoins de l'individu. D'accord? Ça peut être insuffisant en termes de quantité, ça peut être insuffisant en termes de qualité. D'accord? Donc, une sous-alimentation est une forme de malnutrition.
Quelles sont les conséquences de la malnutrition chez les enfants?
Les conséquences de la malnutrition chez les enfants? La malnutrition est vraiment délétère pour les enfants. Il y a un concept qu'on appelle les 1000 premiers jours de l'enfant. Les 1000 premiers jours de l'enfant, c'est la période qui va de la conception jusqu'à 2 ans. Pendant ces 1000 premiers jours, d'abord, si l'enfant est mal nourri, n'a pas tout ce dont il a besoin pour la croissance, on aura des conséquences à plusieurs niveaux. Je m'arrête seulement au niveau cérébral. Le développement cérébral sera touché. Psychomoteur sera touché. Un enfant qui a raté sa croissance pendant les 1000 premiers jours est exposé à plusieurs maladies. C'est la raison pour laquelle je dis souvent à mes patients que si la maman ne s'assure pas que l'enfant est bien nourri pendant les 1000 premiers jours, l'enfant n'aura pas le même développement cérébral que ses congénères, que des personnes qui ont le même âge que lui. Donc, il ne pourra pas être compétitif, même à l'école. D'accord? Donc, si je m'arrête à ce niveau-là, la malnutrition a un impact sur le développement cognitif de l'enfant, le développement cérébral de l'enfant, psychomoteur. Donc, la malnutrition, ce n'est pas bon pour nos enfants et pour les générations futures. Parce qu'un enfant, c'est l'avenir du pays. C'est la raison pour laquelle on se concentre. 0 à 5 ans, il faudrait que ces enfants soient bien nourris parce qu'on veut des citoyens capables, productifs pour demain.
Alors, vous avez parlé justement de l'alimentation de l'enfant durant ces 1000 premiers jours. Nous allons y revenir de manière plus détaillée. Parlons justement, docteur, de l'alimentation de la femme enceinte, notamment en ce qui concerne les 9 mois durant lesquels l'enfant est dans le ventre. Comment est-ce qu'une femme enceinte devrait s'alimenter pour garantir un apport suffisant en nutriments chez son bébé?
Ok. Pendant les 1000 premiers jours de l'enfant, si on prend de la conception jusqu'aux 9 mois de l'enfant, de façon générale, la maman doit s'alimenter, d'avoir une alimentation équilibrée. Équilibrée voudrait dire une alimentation qui lui apporte les 2000 à 2400 kilocalories par jour, qui est riche en fruits et en légumes pour éviter les carences en micronutriments, parce que ces micronutriments-là entrent dans la formation de tous les organes, de tous les organites, de toutes les cellules de l'enfant. D'accord? C'est la raison. Il faudrait aussi que la maman puisse, pendant les 9 mois, prendre toutes les supplémentations en fer pour éviter l'anémie. Parce que l'anémie sévère n'est pas bon pour l'enfant. La maman doit prendre ses supplémentations en acide folique, n'est-ce pas, pour que l'enfant ait un bon développement neurologique. Donc la maman doit, et tout cela se retrouve dans les légumes et les fruits, une alimentation équilibrée.
Justement, docteur, supposons qu'un enfant, justement, pendant la grossesse de sa maman, a été bien alimenté, et disons, à partir de 6 mois, une fois qu'il a fini avec l'allaitement maternel exclusif, comment est-ce qu'un parent devrait convenablement composer son alimentation?
Ok, merci monsieur Febi. Pendant les 6 premiers mois, voilà, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur l'allaitement maternel exclusif. L'allaitement maternel, quand on dit exclusif, c'est vraiment exclusif. On ne donne rien d'autre à l'enfant, uniquement le lait maternel, même pas l'eau. Même pas l'eau. Les mamans diront, non, l'enfant avait soif. Comment vous savez que l'enfant a soif? Donc, on m'avait dit, non, il tète beaucoup, il tète beaucoup. Non, si vous trouvez que l'enfant a soif et que le lait maternel ne suffit pas, ne prenez pas sur vous la décision d'ajouter autre chose dans son alimentation. Venez demander au spécialiste, rencontrer un pédiatre, rencontrer un nutritionniste, demander ce qu'il a lieu de faire. Parce qu'une diversification précoce est aussi une source de problèmes. D'accord. Maintenant, à partir de 6 mois, débute la diversification alimentaire. Parce qu'à partir de 6 mois, l'enfant a besoin de plus d'énergie, donc plus d'aliments. Le lait maternel doit être complété. Et c'est obligatoire à partir de 6 mois. La maman doit devoir donner une autre nourriture à l'enfant. Généralement, ce sont des bouillies qu'on dit des bouillies composées, qui peuvent être composées avec une source de céréales. Chaque maman, chaque parent devrait composer la bouillie en fonction de ce qu'il a de disponible à la maison. Quand je dis une source de céréales, si dans ma maison, j'ai du mil rouge, c'est ma source de céréales. Si j'ai du mil jaune, c'est ma source de céréales. Si j'ai du maïs ou bien si je peux avoir le riz, c'est ma source de céréales. D'accord? Après la source des céréales, je m'en vais à ma source de lipides qu'on trouve généralement dans l'arachide. Après, j'ai une source de protéines. Ce sont des protéines qui rassurent, qui permettent à l'enfant de grandir, qui assurent la croissance de l'enfant. Les protéines, on peut avoir ça dans l'arachide, dans le soja, dans le niébé. Donc, dans ma bouillie, j'ai mis ma source de glucides, j'ai choisi mon mil rouge, d'accord. J'ai mis ma source de lipides, j'ai choisi l'arachide. J'ai mis ma source de protéines, j'ai choisi le soja. Encore que le soja, il y en a qui produisent ça chez eux, non? Dans leur maison, dans leur foyer, je vous l'ai dit, il y en a qui produisent à la maison, on n'a pas besoin forcément d'aller acheter. Et même s'il faut acheter, c'est une grosse tasse à 600. Avec le soja de 600, je peux composer l'aliment pour mon enfant au moins pour 2 à 3 mois. Le mil rouge, on en a à la maison. L'arachide, on en produit. Donc, si je compose la bouillie de mon enfant avec ces 3 éléments, c'est une bonne base. C'est suffisant. À partir de 6 mois, on n'a pas besoin de mettre le sucre dans la bouillie de l'enfant. On n'a pas besoin. Donc, si je mets mil, arachide, soja, je donne ça à l'enfant, c'est suffisant. Donc, je vais prendre par exemple, disons, même 6 gobelets de mil. je mélange avec un gobelet d'arachide grillé, avec deux gobelets de soja, je m'en vais écraser. C'est la bouillie de mon enfant. Cette composition-ci, telle que faite, mon enfant peut prendre ça pendant 3 mois, associé au lait maternel, parce que l'allaitement maternel est exclusif de 0 à 6 mois et est recommandé jusqu'à 24 mois. Donc l'enfant doit continuer d'allaiter jusqu'à 2 ans. Et quand on parle d'allaitement maternel, vraiment, qu'on ne me dise pas que le lait est gâté, parce que le lait ne se gâte pas. Le lait ne se gâte pas, même si papa vous traverse, le lait ne se gâte pas.
Docteur, vous avez insisté justement à cette composition de bouillie à partir de 6 mois. Habituellement, il y a des personnes qui ajoutent en dehors justement du miel, des arachides ou bien du soja, qui ajoutent par exemple des écrevisses, qui ajoutent, bref, qui font un mélange vraiment très composé. Est-ce que cela aussi est recommandé, parfois avec du lait de vache?
Le mélange que j'ai donné, arachide, miel et soja, c'est un mélange de base. Que ce soit les écrevisses, que ce soit le lait de vache, que ce soit le poisson frais, que ce soit poisson séché, ce sont des sources de protéines. Donc si j'ai du soja comme ma source de protéines, ça va. Si je peux, au lieu de mettre du soja, mettre du lait de vache, c'est une autre source. Mais en ce moment-là, ça ne sera pas une farine composée. Ça devient plus difficile pour la maman. Moi, j'aimerais ici qu'on parle d'une composition qui peut être faite par tout le monde à moindre coût et partout. Donc une telle composition sera faite par tout le monde et même la maman qui ne vit que du champ peut faire une telle composition et donner à son enfant. Cela va nous réduire les cas de malnutrition aiguë sévère. Et maintenant, comme source de micronutriments, ce sont des fruits. On peut parler des fruits de saison. D'accord? Si j'ai ma composition de base, quand je finis de préparer ma composition de base, si dans mon champ j'ai la papaye, que j'écrase la papaye, je donne à l'enfant. À côté, les mangues, que je prenne de la mangue, je me rassure que c'est de la mangue en bon état, un fruit sain. J'écrase, je donne à l'enfant. C'est ma source de micronutriments, c'est ma source de vitamine A que je donne à l'enfant. Là, ça peut nous permettre de lutter contre les carences. Vous convenez donc avec moi que même la pauvreté ne justifie pas la malnutrition chez l'enfant.
Docteur, cette bouillie que vous conseillez à nos mamans, c'est jusqu'à quel âge pour l'enfant?
À partir de 6 mois, on va parler de l'initiation à la diversification. Ce que j'aimerais dire, c'est que à partir de 6 mois, d'accord, l'enfant apprend à manger. Quand je donne ma bouillie à l'enfant, je peux donner une cuillère. Si l'enfant prend une cuillère à 6 mois, une cuillère 3 fois par jour, c'est suffisant. Parce que si je commence à vouloir insister que l'enfant finisse la quantité que j'ai prévue, on va frustrer l'enfant et on va rater la diversification. Et au fur et à mesure, on augmente en fonction de la demande de l'enfant. S'il prend goût, il va prendre davantage et à partir d'un certain moment, même à 9 mois, on peut commencer à mettre un peu de sucre. Au début, je vous ai dit que l'alimentation de l'enfant, une alimentation équilibrée voudrait qu'il y ait une source de glucides, de lipides, de protéines. À partir de 9 mois, en plus des bouillies, on peut ajouter des purées. Des purées, c'est quoi? J'ai choisi comme céréales dans ma bouillie, le miel, d'accord? Ça, c'est une source de glucides. Dans la source de glucides, nous avons les céréales et les féculents. Nous avons l'igname blanc, les pommes de terre, le taro, la patate qui sont disponibles à l'extrême nord. Donc, si je veux faire ma purée, je dis, ok, j'achète ma patate ou bien je creuse ma patate au champ. Je prends une patate, je prends l'œuf de la poule que j'ai dans ma cour, c'est ma source de protéines. D'accord. Et je prends les feuilles de baobab qui poussent un peu de partout. C'est ma source de légumes. Je fais une purée, je donne à l'enfant.
Ça, c'est à partir de 9 mois, vous avez dit?
À partir de 9 mois, oui. À partir de 9 mois, on commence à donner les purées. Après les purées, on va partir des aliments qui sont un peu solides, semi-solides. Au fur et à mesure des besoins de l'enfant, on varie. À partir d'un an, l'enfant peut entrer dans le plat. Pas forcément, pardon, il peut goûter le plat familial parce que l'enfant intègre le plat familial à 5 ans. À 5 ans, l'enfant doit manger de façon spécifique jusqu'à 5 ans. Se rassurer, est-ce que la bouillie que j'ai prévue pour mon fils aujourd'hui ou pour ma fille aujourd'hui, est-ce qu'il a fini cette bouillie-là jusqu'à 5 ans? Ce que nous faisons dans nos communautés, c'est dès que l'enfant parvient à s'asseoir, on le met autour de la natte avec ses grands frères et on pense qu'il a mangé. Non. Et là, un enfant qui est autour de la natte, un enfant d'un an, assis avec un autre enfant de 5 ans, il ne doit pas manger. On aura beau lui faire un plat bien composé, Mais si on ne s'est pas rassuré qu'il a fini la proportion, la portion qui lui était réservée, il va souffrir de malnutrition. On va se retrouver un enfant de 2 ans qui souffre de marasme ou de kwashiorkor. La maman ne doit pas comprendre pourquoi.
Vous avez insisté sur les bouillies, vous avez parlé justement de ces purées qu'on pourrait ajouter à l'alimentation. Est-ce que cela continue jusqu'à 5 ans, puisque vous venez d'expliquer pourquoi il serait important que ce ne soit qu'à partir de 5 ans que l'enfant soit intégré justement dans le plat familial? De 1 an jusqu'à 5 ans, comment cela se passe?
Entre 1 an et 2 ans d'abord, on continue avec le plat de l'enfant. L'enfant commence déjà à attraper lui-même ses aliments. Ça veut dire que lui, on n'a pas besoin de lui donner les purées. On peut lui donner ses aliments en morceaux. Et quand on donne en morceaux, c'est le principe est le même. Je fais ses pommes avec les œufs et la carotte. Par exemple, il arrête lui-même et il mange. Je fais ses spaghettis avec le poisson et avec une sauce de légumes. Lui-même, il peut manger. Au fur et à mesure, même à partir de 2 ans, il mange déjà lui-même. Mais il faudrait qu'on serve sa nourriture. On se rassure qu'il a fini cette nourriture-là et que c'est un repas équilibré. Est-ce que dans son plat, il y a une source de protéines? Est-ce que dans son plat, il y a une source de glucides? Qu'on ne donne pas à l'enfant uniquement le couscous. Le couscous, n'est-ce pas? Si on vous donne la boule et on donne avec une petite sauce, ce n'est pas équilibré. Il faudrait que la boule de l'enfant soit avec beaucoup de sauce parce qu'on cherche les légumes qui vont lutter contre la carence en fer. Il faudrait qu'il ait assez de sauce dans son plat. Qu'on lui donne son morceau de viande, ou bien son morceau de poisson, ou bien c'est le poisson séché, ou bien qu'on mette le niébé dans sa sauce, dans les sauces. Il y a une sauce que nous faisons ici avec le niébé, c'est une source de protéines. Donc si maman n'a pas les moyens, ou papa n'a pas les moyens pour acheter la viande, qu'on mette le niébé dans la sauce, c'est une source de protéines.
Merci docteur pour tous ces précieux conseils. Alors supposons qu'à l'instant il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui ont des enfants par exemple, qui ont raté tout ce processus de nutrition. Comment est-ce qu'on pourrait rattraper cela docteur?
Ok, si les personnes ont des enfants qui ont raté, je ne sais pas comment ils évaluent que l'enfant a raté. Donc, il faut d'abord venir en consultation. Il faut venir en consultation, on va vous aider à identifier quel est le problème. Parce que la malnutrition, il y a un volet que j'ai oublié. Il y a des carences, des insuffisances d'apport. Mais il y a des malnutritions qui sont dues à des états de santé, à des états pathologiques. Donc l'enfant est malade et c'est cette maladie qui conduit à une malnutrition. Donc il faudrait venir en consultation pour qu'on puisse identifier est-ce que c'est une maladie qui a causé la malnutrition, est-ce que l'enfant a vraiment un retard de croissance, est-ce que l'enfant a une insuffisance pondérale, est-ce qu'il y a une émaciation. En fonction de cela, en fonction du diagnostic, on pourra vous dire s'il faut traiter la maladie ou bien s'il faut essentiellement s'arrêter à l'alimentation.
Docteur Yolande Fudio, merci d'avoir répondu aux questions de santé pour tous sur Radio Série.
C'est moi qui vous remercie. Nous serons toujours à votre disposition s'il s'agit de prévenir les maladies parce qu'aujourd'hui dans la santé, nous sommes dans une dynamique de prévention. Nous sommes dans une dynamique de prévention et la prévention passe par la santé communautaire. Donc, c'est la raison pour laquelle nous serons toujours disponibles pour apporter notre pierre à cet édifice.
Amis auditeurs, c'est la fin de cette autre édition de Santé pour tous qui s'est appesantie aujourd'hui sur la malnutrition infantile grâce à l'expertise du docteur Yolande Fudio, nutritionniste en service à l'hôpital régional de Marois, à qui nous exprimons notre gratitude pour sa disponibilité à vous servir et à vous informer. Chers parents et gardiens d'enfants, la pauvreté n'est pas une justification de la malnutrition. Nous avons dans nos maisons et tout autour de nous tout ce qu'il faut en termes de céréales, légumineuses et fruits pour garantir à notre enfant une alimentation saine et équilibrée de sa conception jusqu'à ses 5 ans. Déjà durant la grossesse, la mère doit s'assurer d'avoir une alimentation riche en fruits et légumes pour favoriser la bonne constitution des organes de son bébé. La femme enceinte doit aussi prendre toutes les supplémentations en fer et en acide folique prescrites lors des consultations prénatales. De la naissance jusqu'à 6 mois, l'enfant doit être exclusivement allaité au sein. Il ne faudrait rien lui donner d'autre, même pas de l'eau, car le lait maternel contient déjà tout ce qu'il faut pour son alimentation. À partir de 6 mois, vous devez, en plus du lait maternel, commencer à donner des bouillies à votre enfant. Pour cela, vous pouvez composer sa bouillie avec les céréales telles que le mil, le riz ou le maïs, en y associant une source de lipides telles que les arachides et une source de protéines, à l'instar du soja ou du niébé. À partir de l'âge d'un an, on peut déjà, en plus du lait maternel, des bouillies et des purées, commencer à donner d'autres aliments solides et semi-solides à l'enfant. Notons que l'allaitement maternel doit continuer jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans. Chers parents, les 1000 premiers jours de votre enfant, c'est-à-dire de sa conception jusqu'à ses 2 ans, sont capitaux pour sa santé. Si pendant les 1000 premiers jours, l'enfant est mal nourri, il y aura des conséquences sur son développement cérébral et psychomoteur. Une alimentation ratée pendant cette étape expose votre enfant à plusieurs maladies. Enfin, avant l'âge de 5 ans, vous devez, chers parents, surveiller de près l'alimentation de vos enfants en termes de qualité et de quantité pour leur éviter tout déséquilibre alimentaire. Fidèles auditeurs, n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'interagir avec nous sur le thème de ce jour. Vos réactions et questions sont attendues soit par message, soit par voice via WhatsApp au numéro 695-14-63-62, 695-14-63-62. La mise en onde de cette émission a été possible grâce au concours de Maxino à la technique et David Bayan à la coordination. Au micro de présentation, je suis Steve Phoebe. Donnons-nous rendez-vous très prochainement pour une autre édition de Santé pour tous. D'ici là, gardez à l'esprit, mesdames, messieurs, que prévenir vaut mieux que guérir. À très bientôt.